nous, notre système d'acquisition le plus performant chez cette média, c'est les partenariats stratégiques. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. On regarde c'est quoi le produit qu'on offre. Donc, nous, c'est de la publicité Facebook. Et par la suite, on regarde c'est qui les industries qu'on va desservir, OK? Donc, on a notre vertical et notre horizontal, OK? Donc, notre horizontal, c'est notre produit. Notre vertical, c'est les industries qu'on va desservir. Produit, publicité Facebook, vertical, vente en ligne, online businesses. Donc, il y a deux verticales qu'on va desservir. Maintenant, quand tu sais un peu qui dans cet environnement-là, travaille avec ces mêmes gens-là, qui travaille avec des commerces en ligne, qui travaille avec des online business. Mais nous, ce qu'on fait au niveau du développement de notre entreprise, on s'en va voir les fournisseurs de services, des entreprises qui travaillent avec des e-commerce. Et on essaie de leur dire, « Hey, toi, tu travailles avec des e-commerce. Est-ce que ça arrive des fois que des e-commerce ont des besoins de publicité Facebook? »
Bienvenue au 16e épisode du podcast Hypercroissance présenté et produit par J7 Media. En gérant plus de 4 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media fut l'une des premières agences au monde à obtenir le badge Facebook Marketing Partner remis aux agences partenaires premium de Facebook. Si vous désirez recevoir une analyse personnalisée d'une dizaine de pages qui couvrira vos tunnels de vente, vos campagnes numériques, vos créatifs publicitaires et plus d'une demi-douzaine d'autres points, rendez-vous au www.j7media.com et demandez votre analyse de performance Facebook gratuitement. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous construire un document complet qui vous permettra d'accélérer la croissance de votre entreprise. Aujourd'hui sur le podcast, le concept est inversé. Il y a quelques semaines de cela, mon ancien collègue de travail, Robin Vézina, m'a demandé de venir faire une présentation lors de son mastermind mensuel avec ses clients. Pour la petite histoire, tous les gens présents lors de l'interview sont des entrepreneurs ou encore des travailleurs autonomes qui ont à gérer la publicité Facebook au jour le jour. Robin m'a demandé de venir parler des piliers de croissance qu'on utilise chez J7 Media afin de faire grandir l'organisation. J'aborde, lors de cet entretien d'une quarantaine de minutes, deux des quatre piliers de croissance qui sont fondamentaux chez nous. On parle donc de rétention de clientèle et ensuite d'acquisition de nouveaux clients. Sans plus attendre, ma discussion avec Robin Vézina.
Ce qu'on vient de parler, c'est un peu un des premiers leviers de croissance qu'on utilise ici, le volet d'ascension, s'assurer que le client puisse grandir à travers le temps avec nous, parce que nous, on a envie de faire grandir le client. Donc, c'est juste une balance égale. Maintenant, il faut s'assurer d'une chose, il faut s'assurer que le client reste. Il faut s'assurer que le client soit content. Puis ça, c'est la chose la plus importante. Si vous avez une business que vous faites énormément d'acquisitions, mais qu'après 2-3 mois, la majorité de vos clients partent, vous n'êtes pas plus avancé parce que là, vous tout le temps recommencez la roue pour faire de l'acquisition continuellement. Cette acquisition-là ne reste pas. Ça, c'est très, très dangereux comme modèle. Donc, moi, ce que je propose, c'est de s'assurer que la rétention est bonne avant de partir à la chasse et d'aller en chercher un média. Assurez-vous que votre client reste. Ceci étant dit, moi, j'ai été capable de voir trois trucs à travers le temps qui ont vraiment tout fait la différence dans la manière qu'on a été capable de garder une très bonne rétention avec nos clients. Ces trois trucs-là sont des concepts globaux que je pourrais vous donner des exemples spécifiques par la suite. Donc, la première chose, le premier étape que je vais utiliser, c'est le mot « amour ». OK? Il faut que votre client vous aime. Il faut que vous l'aimiez également. Okay? Ça, c'est excessivement important parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont bâtir des relations d'affaires uniquement sur un échange de chiffres. Donc, un échange de chiffres, voici combien est investi, voici combien est fait. Il n'y a pas de relation qui se crée avec, on va dire, la personne en charge du compte. Donc, si vous n'avez pas une bonne relation avec votre client, ben vous êtes mal pris parce que quand ça va mal aller, c'est cet amour-là que vous allez avec votre client qui va vous faire en sorte que vous allez pouvoir garder la relation. Okay? C'est cet amour-là que vous avez développé avec votre client qui va vous permettre d'avoir une discussion franche puis de dire « je suis d'accord, les résultats sont pas bons en ce moment, mais tu le sais qu'on a tout fait dans le passé pour que les résultats soient bons. Donc, fais-moi confiance pour qu'on va tout faire pour que les résultats soient bons dans le futur également. Okay? » Donc, si vous n'êtes pas capable de développer une bonne relation, un amour que votre client perçoit de vous puis un amour que vous percevez de lui, quand ça va mal aller, vous allez être mal pris en tabarouette, OK? Donc, c'est important de bâtir cette relation-là dès le départ. Puis, comment vous pouvez le faire? Bien, dégager de l'amour pour votre brand, c'est-à-dire créer du contenu pour votre brand. Assurez-vous que vous représentez votre brand d'une manière qui est fière. Assurez-vous de bien comprendre également votre client. Donc, ça, c'est des termes un peu plus globales, mais gardez-le en tête parce que si vous ne développez pas cet amour-là avec le client, quand ça va mal aller, vous allez être mal pris parce que là, le client, il va tirer à plat direct parce que en plus que les résultats seront pas bons, il vous aime pas à face, OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est, à mon avis, la plus importante, c'est d'avoir des résultats. OK, c'est pas compliqué. Il y a beau t'aimer pendant des années de temps ton client, si à chaque semaine tu envoies un rapport puis il n'y a pas de maudit résultat, ben maintenant, c'est un businessman, le client, il va pas vouloir rester avec toi, tu sais. Fait que il va dire ouais, c'est bien cool, t'as un beau sourire, Antoine, t'es bien sympathique, mais tabarouette que ça marche pas ton affaire, on tire la plug. Donc, assurez-vous d'être bon dans ce que vous faites, puis je pense que n'importe quel entrepreneur, solopreneur ou travailleur autonome qui se respecte va vouloir offrir un service qui fonctionne à son client. Maintenant, le dernier point, être sûr que le client vous aime, que vous y amenez des résultats. Là, c'est le dernier point que tout le monde oublie, puis que c'est là qu'ils font toutes les erreurs, puis c'est là que je m'en suis rendu compte, c'est la perception des résultats. Okay? Donc, c'est-à-dire, vous allez arriver. Vous, là, vous allez être chez vous, dans votre bureau, peu importe où est-ce que vous travaillez, vous allez dire, Caroline, qui marche bien, mes campagnes, c'est sûr qu'ils marchent, j'ai des bonnes métriques, tout ça. Et le client, de l'autre côté, il pense totalement le contraire. Lui, il se dit, ah ben non, c'est à cause que ils ont eu du bouche à oreille, il y a eu ci, il y a eu ça, que mes ventes ont augmenté. Donc, il ne peut pas mettre la croissance de son entreprise, il ne peut pas dire que la croissance de son entreprise vient de vos efforts. Puis s'il ne peut pas mettre ça sur vos efforts, ben là, vous êtes dans une situation excessivement fragile parce qu'il ne comprend pas ce que vous faites pour lui. Okay? Et s'il ne comprend pas ce que vous faites pour lui, je vous le dis, sur le moyen terme, maintenant, il va se poser des questions. Un consultant externe va dire, va arriver, puis il va y poser des questions, ça va y mettre un doute dans la tête, puis la personne va tirer la plug. Donc, encore une fois, votre pilier de croissance, la rétention, il sera pas tellement solide, OK, si vous avez juste les deux, mais pas le troisième point. Donc, là, c'est bien beau des termes, mais comment qu'on fait maintenant pour avoir une perception que le client comprenne bien les résultats qu'on lui amène? La première chose, assurez-vous d'avoir un système de reporting très, très solide et un système de reporting que votre client comprend. Combien de personnes envoient un bilan et disent « Hey, voici mon bilan », puis le client l'ouvre puis il comprend rien de ton maudit bilan, OK? Un bilan, ça s'explique. Il y a une présentation qui va être faite là-dessus. C'est pas tous les clients qui comprennent c'est quoi une conversion. C'est pas tous les clients qui comprennent pourquoi qu'on est capable d'avoir des leads avec Facebook. C'est pas tous les clients qui vont comprendre qu'on est capable à l'intérieur du gestionnaire de publicité Facebook de savoir que ce clic-là a généré cet achat-là. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte chez J7, c'est que, premièrement, on a un système de reporting excessivement transparent avec une fréquence très, très élevée. Okay? Donc, c'est-à-dire la majorité des gens vont faire des systèmes de reporting au mois. Nous, c'est par semaine. Et dans les débuts de relation avec un nouveau client surtout, parce que c'est surtout au début qu'il faut que tu t'assures que le client comprenne bien les résultats. Sur le moyen terme, l'année, c'est quand même ancré dans sa tête. Donc, tu peux peut-être descendre la fréquence de rencontre. Mais ceci étant dit, au départ, quand on envoie nos bilans hebdomadaires, les directeurs de compte, donc les gens en charge des clients chez nous, vont aller faire une rencontre en vidéoconférence avec ces clients-là pour leur expliquer. Et ce, à chaque semaine, jusqu'à temps que c'est ancré dans la tête du client de comment que les résultats fonctionnent puis comment que la plateforme Facebook fonctionne. C'est votre responsabilité d'éduquer votre client. Puis, du moment que votre client, il vous aime la face, il a des bons résultats, puis il comprend que ça vient de vous, mais là, à partir de là, vous devenez ce qu'on appelle un peu un trusted advisor, donc quelqu'un qu'il va se fier avant d'aller faire une décision marketing, une décision de business. À partir de là, habituellement, la relation est bonne. Et si vous continuez d'être excessivement rigoureux sur les résultats que vous amenez, sur le reporting que vous faites, puis sur la manière que vous vous présentez, ça va être très complexe pour le client de partir parce que là, vous avez les ingrédients parfaits d'une relation d'affaires qui est vouée à continuer pour un bon bout de temps.
Tu sais, spécifiquement, tu dis à chaque semaine, tu vas faire un reporting?
Tous nos clients chaque semaine, oui.
Est-ce que c'est une fréquence que tu as trouvé qui est optimale, un mois versus aux deux semaines, versus aux semaines? Est-ce que tu as testé ces différentes fréquences-là, puis y aller semaine après semaine, est-ce que ça allait changer quelque chose?
Bien, c'est une très bonne question. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est-à-dire aussi pour garder la relation, mais également, si tu fais des rapports chaque semaine, ça te permet également, toi, de continuellement optimiser tes résultats. T'sais. Donc, souvent, on va faire des optimisations pas mal à tous les jours sur nos campagnes, vous devez connaître ça, mais peut-être qu'on s'arrêtera pas pour faire une analyse complète de la situation à chaque jour. Puis c'est pour ça que nous, on a trouvé que le volet une fois par semaine était bon, surtout relié à la plateforme. Donc, Facebook, si tu lances une campagne puis tu fais un gros rapport une journée après, vous le savez autant que moi, ça donne pas grand-chose. La machine s'est pas mise en place. La machine comprend pas encore ta publicité. Faut que tu lui donnes du temps. Donc, déjà, dans un contexte de la plateforme sur laquelle on fait du travail, une semaine est un délai intéressant pour bien faire une analyse complète de la situation. Donc, ça, c'est le point 1. Point 2, si éventuellement vous arrivez sur un modèle d'affaires, où est-ce que vous êtes capable de charger mensuellement vos clients, ça c'est ce que tout le monde souhaite, il faut tout le temps se rappeler une chose. Il n'y a pas une personne de l'histoire de l'humanité qui aime recevoir à chaque mois une facture pour les services du mois. Personne n'aime ça, recevoir ça. peu importe dans quel, tu sais, moi, j'ai jamais reçu, je suis jamais content d'aller payer, mettons, un loyer. Je suis jamais content nécessairement de payer un SAS mensuel. Personne n'est content de sortir de l'argent. C'est juste, c'est émotionnel, là. C'est bon. Donc, dans cette optique-là, rappelez-vous une chose. Si vous rentrez sur un modèle mensuel, il y a des excellentes chances qu'une fois par mois, vous envoyez une facture à votre client parce que tabarouette, vous voulez être payé. Donc, là, déjà là, partez dans une balance qui est, vous êtes à moins un. OK? Vous êtes à moins un direct parce que, déjà là, vos nombres de relations avec votre client dans le mois partent à moins un parce que vous le savez qu'au moins une fois dans le mois, il sera pas tellement content parce qu'il va recevoir une facture, comme n'importe qui. Donc là, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est comment je suis capable de passer cette balance-là à une balance positive également. Donc, si je pars à moins un, comment je peux finir à plus 3 ou peut-être même plus 7? Quand je dis plus 7, c'est balance positive contre balance négative, OK? Donc, dans cette optique-là, nous autres, on s'est rendu compte qu'au-delà d'avoir des résultats qu'on est capable d'amener à nos clients avec un rapport qu'on fait d'une manière hebdomadaire, on s'est rendu compte qu'on partait à moins 1 parce qu'à chaque mois, on envoie une facture, vous avez compris. Donc là, comment qu'on fait pour terminer à plus 7 dans le mois? Donc, 7 contacts, 8, 10 contacts positifs avec le client contre un contact négatif. Et là, tu arrives avec une équation à la fin du mois, tu es à plus 9. Donc, quand le client reçoit sa facture, ça y fait peut-être un peu difficile à avaler, mais tabarouette, il vient de se rappeler des 9 autres contacts positifs qu'il y a eu avec vous dans le mois. Donc, à partir de là, si vous êtes capable d'avoir une balance, une équation qui vous donne un résultat qui est bon, mais là, c'est là que la rétention encore avec votre clientèle va être meilleure. Donc, théoriquement, si vous envoyez un bilan par semaine, vous avez au moins 4 fois un contact avec votre client dans le mois. On espère que ces 4 fois-là vont être un contact positif. Peut-être si vous avez des nouveaux créatifs, des nouvelles publicités à faire approuver, vous allez avoir d'autres contacts positifs à travers la semaine. Assurez-vous que votre client maintenant aime les campagnes. S'il dit que tes campagnes sont pas bonnes, ben là, c'est sûr que ça s'en va dans le contact négatif. Mais faites cet exercice-là. Sur le nombre de contacts que j'ai avec mon client, combien j'ai eu de contacts, on va dire, négatifs, puis soyez francs avec vous-même. Si les résultats n'ont pas été bons, votre bilan de la semaine, c'est un contact négatif. OK? Fait que vous lui rappelez que les trucs ont mal été. Si les résultats ont été bons, c'est un contact positif. Faites de la balance, puis arrivez à la fin du mois à voir est-ce que vous êtes positif ou négatif. Si vous êtes continuellement négatif, ben, il y a des excellentes chances que même la rétention soit pas bonne, puis vous perdiez ce compte-là. Comparativement à si l'équation est positive, là, vous risquez d'avoir un client qui va rester un bon bout de temps avec vous.
Nice. Puis moi, personnellement, si je peux rajouter quelque chose avec mes clients que j'ai, tu sais, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 4, mais comme Antoine, le bilan, je suis pas très bilan, puis j'ai pas beaucoup d'outils tant que ça à ce niveau-là. Mais moi, c'est une rencontre qui va durer à peu près 30 à 45 minutes avec mon client à l'intérieur du gestionnaire. Je montre qu'est-ce qui a été testé durant la semaine, les résultats, qu'est-ce qu'on a appris de ça, c'est quoi le prochain move. Chaque semaine, j'ai vraiment ce contact-là, un appel Zoom avec mon client. Et encore une fois, hey, comment ça va? Puis le week-end, ah cool, tu sais, quand on parle de l'amour de mes clients, l'amour que le client porte pour nous, le fait d'avoir une petite discussion, un petit small talk, ça fonctionne super bien. Au fait qu'au lieu d'aller juste chercher l'information dans un bilan, ben justement, j'y présente, puis j'ai la chance de parler avec elle, je m'assure que tout va bien. Puis une question que justement j'aime bien poser, c'est y a-t-il quelque chose que je fais pas que je devrais faire plus?
Ben oui.
J'ai fait ça avec Guillaume récemment, tu sais. Fait que j'ai dit bon Guillaume, tu sais, ça va bien, les perspectives de travailler ensemble continuent, puis on est là super. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas que je devrais faire plus?
Mais oui.
Fait que c'est une question quand même assez tough à poser. Ok, c'est quand même un peu même épeurant. Surtout si des fois tu te poses des questions, t'es comme es-tu heureux ou pas? T'as vraiment la réalité. T'as la réponse à ta question. Puis oui, il me dit ah j'aimerais ça être plus accompagné dans certains volets là. J'aimerais ça faire du multiplateforme. J'aimerais ça qu'on scale plus. Ben j'ai été chercher exactement les 3 réponses que j'avais besoin d'avoir pour solidifier ma relation. T'sais. Fait que avoir un contact vraiment humain, surtout à petite échelle quand on en a pas des tonnes, c'est assez facile à faire. Et ça change vraiment, vraiment, vraiment toute la relation que vous allez avoir avec.
Puis, j'ajouterais même un autre truc, Robin, c'est qu'en plus de solidifier la relation niveau business, le client vient de te dire exactement 3 besoins, puis c'est ce qu'on disait tantôt, 3 besoins que le client a, que toi, tu es peut-être capable de combler avec une autre offre de service supplémentaire qui va augmenter la facture moyenne que ton client va te donner mensuellement. Donc, en plus de solidifier la relation, de pouvoir prévoir que des choses négatives sont peut-être sous peu d'arriver parce qu'on le sait jamais. Peut-être le client, vous faites une rencontre avec lui, mais lui, il se prépare d'ici quelques temps peut-être changer son agence, tout ça. Mais en plus de prévoir ça, il y a peut-être des ventes croisées supplémentaires qui peuvent s'offrir à vous quand vous posez ces questions.
Tu sais, ça devient un peu complexe quand on est à une petite équipe. On parle de plusieurs besoins de clients. Tu sais, je pense à Kim, mettons, qui justement peut vivre un peu ce genre de problème-là. C'est à un moment donné, parfait, il y a plusieurs besoins que notre client va avoir. Super. Mais nous autres, est-ce que on compte tous ces besoins-là? Est-ce qu'on se spécialise en une chose? Et où la balance entre la spécialisation puis répondre aux besoins de nos clients?
Très bonne question. Encore une fois, les réponses que je vais donner, c'est pas du rocket science, c'est uniquement ce que je pense, que j'ai vu. Donc, ceci étant dit, je crois énormément, personnellement, à la spécialisation. Pour la simple et bonne raison que quand tu te spécialises dans quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui ne te connaît pas de reconnaître pourquoi il voudrait travailler avec toi. Donc, si tu arrives et tu présentes 1 million de services supplémentaires de ce que tu fais habituellement, mais la personne ne sait pas vraiment c'est quoi la valeur ajoutée que tu vas lui dire, tu sais. Donc, moi, je crois énormément à la spécialisation. Ceci étant dit, si tu poses la question à ton client, quel besoin que tu as, et finalement, tu te rends compte que les besoins qu'ils ont, que le client a, sont des services que toi, tu penses que tu pourrais peut-être pas offrir parce que tu veux rester spécialisé dans ce que tu fais, mais là, ça amène à un questionnement excessivement intéressant. Nous, chez G7, au niveau, on va parler du troisième levier de croissance, qui est le levier d'acquisition. On s'est rendu compte d'une chose qui est excessivement importante et qui a été un game changer total dans ce qu'on fait, c'est de bâtir ce qu'on appelle des partenariats stratégiques. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si au final, à la fin de la journée, on va prendre un truc très simple, vous allez voir votre client, vous faites de la pub Facebook pour votre client, ça va bien, puis m'amener dans une discussion que vous avez quand vous lui présentez un bilan, il dit « Hey, puis toi, tu ferais-tu ma publicité Google? » Ça peut arriver, ça vous a sûrement peut-être déjà arrivé qu'il va vous poser des questions ou les faire du volet AdWords. Vous pouvez accepter puis le faire, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Ou vous pouvez vous dire « Comment je serais capable de monétiser cette demande-là avec un client ?» Peut-être x4, x5, sans même le faire. Okay? Donc, je vous explique un petit peu l'approche qu'on prend. C'est-à-dire qu'on va prendre des agences, des partenaires stratégiques qui vont offrir des services complémentaires aux nôtres, mais qui restent dans une spécialisation. Okay? Donc, on va s'entourer de gens qui ont une spécialisation précise dans des domaines où est-ce que nos clients vont avoir des demandes spécifiques qu'ils vont nous faire. Donc, le Google Ads en est un, le SEO en est un également, le volet tagging, le volet tracking des conversions en est un. Et à partir de là, quand la demande va venir, nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est de bâtir des partenariats avec ces gens-là pour leur dire, « Hey, partenaire, donc agence qui fait du Google Ads, aimerais-tu avoir un client que tu pourrais faire du Google Ads pour lui parce que j'ai cette demande-là? » Qu'est-ce qu'il y arrive? L'agence est bien contente d'avoir un nouveau client. Et à partir de là, tu es capable d'ouvrir une discussion avec cette même agence-là pour lui dire, puis toi, quand les gens te posent la question si tu veux du Facebook Ads, et tu prends nous l'envoyer. Donc, automatiquement, en posant une question à ton client, lui demandant c'est quoi ses besoins supplémentaires et en trouvant des partenaires stratégiques, tu es capable de pas te mettre la pression sur ses épaules de faire un service que tu n'as pas envie, de le donner à quelqu'un d'autre et en donnant à quelqu'un d'autre d'aller chercher d'autres clients que tu n'aurais pas eu auparavant simplement parce que tu viens de développer un partenariat stratégique qui, lui, va t'amener la clientèle que toi, tu as envie de faire. Puis par la suite, ben là, c'est ça qui est intéressant. Quand tu bâtis tes partenariats stratégiques, là, puis c'est fonctionnel, là, tu peux peut-être t'ouvrir les yeux puis en faire plus. Pour être bien honnête avec vous, nous, notre système d'acquisition le plus performant chez G7 Media, c'est les partenariats stratégiques. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. On regarde c'est quoi le produit qu'on offre. Donc, nous, c'est de la publicité Facebook. Et par la suite, on regarde c'est qui les industries qu'on va desservir. Okay? Donc, on a notre vertical et notre horizontal. Okay? Donc, notre horizontal, c'est notre produit. Notre vertical, c'est les industries qu'on va desservir. Produit, publicité Facebook. Vertical, vente en ligne, online businesses. Donc, il y a deux verticales qu'on va desservir. Maintenant, quand tu sais un peu qui dans cet environnement-là, travaille avec ces mêmes gens-là, qui travaille avec des commerces en ligne, qui travaille avec des online business. Mais nous, ce qu'on fait au niveau du développement de notre entreprise, on s'en va voir les fournisseurs de services, des entreprises qui travaillent avec des e-commerce. Et on essaie de leur dire, hey, toi, tu travailles avec des e-commerce. Est-ce que ça arrive des fois que des e-commerce ont des besoins de publicité Facebook? Oui. Puis d'un autre côté, moi aussi, je travaille avec des e-commerce. Puis souvent, ces e-commerce-là ont des besoins de tagging ou de Google Ads. Est-ce qu'on ferait pas un partenariat ensemble? Et à partir de là, quand tu t'en vas te développer, ces différents buckets-là de partenariats stratégiques, ce qui est intéressant, c'est que si tu les entretiens puis que tu as une offre qui est intéressante pour la personne avec qui tu vas faire ce partenariat stratégique-là, ça pousse une personne qui est pas dans ton organisation à continuellement faire du développement pour ta business. Et vice-versa, toi, tu as toujours l'oreille attentive à si quelqu'un aurait des besoins spécifiques selon le service que ton partenaire stratégique va avoir également. Et à partir de là, si la balance, encore une fois, est au moins even, si c'est tout le temps lui qui t'amène la business puis toi, tu n'en amènes pas, ben tu es juste un profiteur. Même chose si toi, tu en envoies puis lui, t'en amènes pas, c'est juste lui qui est un profiteur. Donc, si la balance est even, vous allez voir, ça a un levier de croissance assez impressionnant. Puis je vous dirais que c'est là-dessus qu'on met énormément de nos efforts chez J7 pour faire de la croissance de business. Puis c'est là qu'on a été capable d'avoir nos plus gros deals même. Donc ça, c'est un truc que je propose vraiment aux gens, de rester spécialisé. S'il y a un besoin précis qui rentre, trouver quelqu'un qui peut le faire pour vous et essayer de trouver une négociation, une entente qui va faire plaisir à tout le monde pour que vous soyez capable de grandir ensemble.
Oui, Kim, tu peux y aller.
Salut Antoine, ben merci de prendre le temps ici avec nous autres.
Bonjour.
Pour continuer sur cette vague-là, quand tu as des clients ou ce que tu réfères avec tes partenaires, est-ce que tu fais comme genre le middleman ou que tu l'envoies complètement? Est-ce que tu gères un peu comme sous-contractant ou tu t'envoies ça directement à le partenariat?
C'est une excellente question. Maintenant, il faut que tu sois à l'aise à 100% avec ce partenariat-là. Donc, si tu n'es pas à 100% à l'aise avec peut-être le service que la personne va offrir, mais que tu penses que ça peut être bon, t'es mieux de peut-être regarder un petit peu comment tout ça va au départ. Donc, moi, avec des nouveaux partenariats, au départ, je suis très quand même hands-on un peu. Je vais voir si, ce que ça se passe. Je vais voir que tous les parties sont contents. Maintenant, un vrai bon partenariat, tu fais juste passer la POC. Tu fais juste passer la POC et t'enlèves ça de ta tête, OK? Parce que c'est ça qui devient intéressant, c'est que tu n'as plus à y penser. Ton client qui voulait ce service-là est super content parce que c'est un bon partenaire, tu lui as donné une bonne référence. Mmh. Même chose pour la personne à qui tu l'as référé, elle est super contente parce qu'elle a un bon client. Donc moi, je l'ai découvert, les meilleurs partenariats, tu fais juste passer la POC. Tu n'essaies pas d'être un intermédiaire qui va essayer de paraître comme le chief marketing officer qui va juste être là pour essayer de garder une commission entre les deux. Il y en a tellement qui font ça. C'est pas quelque chose que je propose. Bâtir des partenariats clairs, des ententes claires. Et si c'est bon, fais juste passer la POC.
Avant d'être rendu là, c'est bon au départ de tester son partenariat puis de le chérir un petit peu. Parce bien que sûr. J'imagine que tu passes la POC sur une mauvaise POC, ben ça va être de ta faute. Puis c'est ta relation avec ton client que tu viens de nuire parce que tu fais oh, « what the fuck, c'est qui tu viens de référer, là? »
Exact.
Tu viens de chier les affaires, what the... T'sais, tu vas devenir... C'est toi qui as un lien de confiance avec le client, mais tu vas être responsable même si c'est l'autre qui le chie, right? Ça, c'est déjà arrivé avec certains clients de faire comme « ben Antoine, pourquoi tu me référais à ces personnes-là? » On est un peu... c'est toi qui as payé le prix, là.
Bien entendu, puis c'est ça qui est très important pour des nouveaux partenaires. Okay? Des partenariats que tu as déjà bâtis à travers le temps, que tu le sais, qui sont confiance, le but, c'est de passer la POC. Des nouveaux partenariats, comme je disais un petit peu au départ, prenez soin de regarder comment que ça va au début parce que si tu fais juste développer un partenariat, puis tu sais pas vraiment comment que la personne travaille, mais là, tu es un peu stupide dans ton approche. Là. Tu dis juste, oh, la personne a l'air cool. Non, non. Regarde ce qu'il fait. Mais quand c'est établi sur 1, 2, 3 mandats, les résultats sont positifs, tu as été capable d'être dans des échanges courriels, tu as eu un bon feedback du client, mais là, à partir de là, essayez le plus possible de vous détacher de ça.
Coachy, est-ce que tu avais une question?
Oui, je voulais poser la question de pouvoir savoir, en fait, est-ce que dans les partenariats, est-ce que tu prends plusieurs personnes dans un même secteur ou bien tu en prends juste un? Alors, bien sûr, ça sous-entendait que tu avais testé le partenaire avant, mais dans quelle optique tu vois ça?
C'est une excellente question. Maintenant, il faut s'assurer, comme je le disais tantôt, d'avoir des partenaires qui ont des spécialisations. Donc, si tu as des partenaires qui ont des spécialisations, tu en prends un. Parce que là, je veux dire, tu as une entente avec lui, c'est un genre de mariage que tu fais, faut pas que tu y joues dans le dos. Donc, tu en prends un que tu es excessivement confiant avec lui. Et moi, pour être certain que je puisse bien dupliquer ça, si vous avez la chance d'être dans des endroits géographiques différents, tu peux en prendre un par endroit géographique. Donc, à partir de là, c'est là que ça peut devenir intéressant aussi, tu sais. Mais ça, c'est si vous êtes sur plusieurs endroits géographiques. Mais si vous êtes sur un endroit géographique précis, mettez les choses claires, prenez-en un que vous avez confiance, puis vous le savez autant que moi, trouvez des gens de confiance en affaires. C'est pas facile. Fait que t'es mieux de s'assurer que la confiance reste avec ce partenaire-là que d'essayer de peut-être aller voir ailleurs comment que ça va parce qu'au final, ça va backfire puis votre partenariat initial risque de tirer de la patte dans le futur parce que la personne va dire « Ouais, ben, tu m'as joué dans le dos une fois, je vais te jouer dans le dos une fois également. »
Antoine, t'as mentionné qu'aujourd'hui, les partenariats stratégiques, c'est ce qui t'apporte le plus de nouveaux clients. Est-ce que tu peux nous donner à peu près un ratio juste pour comprendre? Parce que bon, tu fais du cold approach, c'est-à-dire tu vas contacter les gens par courriel, pas de cold call.
Non, je dirais en acquisition chez J7.
Funnel.
Ouais, c'est ça. En acquisition chez J7, on a trois modèles d'acquisition. Puis by the way, je vous invite à utiliser les mêmes parce que ça, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est vraiment le monde dans les agences qui le disent. Il y a trois bons leviers d'acquisition, c'est les partenariats stratégiques, l'approche à froid, donc aller voir littéralement des gens avec qui tu peux travailler et par la suite, toutes les inbound inquiries qui vont arriver, donc tout le contenu que vous avez fait, peut-être les tunnels de vente que vous avez mis en place, donc le inbound marketing. Donc, on pourrait résumer ça comme trois piliers qui pourraient rentrer dans le gros piliers d'acquisition. Donc, ça, c'est les trois manières qu'on va approcher ça. Je dirais, faudrait que je regarde les
chiffres. Juste à peu près, ça ressemble à quoi tes pourcentages?
Je te dirais à peu près, les partenariats stratégiques vont représenter au moins 70% de la business qu'on va faire l'acquisition et c'est souvent les 10 de meilleure qualité également. Si tes partenaires sont des bons partenaires. Puis après, les deux autres, ils vont se séparer un peu la POC à 15-15. Récemment, on a mis un petit peu moins d'efforts sur l'approche à froid parce qu'on a revu un peu une stratégie à ce niveau-là. Mais habituellement, c'était une approche qui nous amenait quand même beaucoup de business également.
Quand tu parles d'approche à froid, est-ce que tu fais du cold call? Je sais que Robin en a parlé vite, mais parce que là, tu parles de te présenter directement chez le client, mais est-ce que tu fais un peu de cold call? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Tu parlais de courriel aussi. Comment tu divises ça, en fait?
Excellente question. La manière qu'on s'y prend, nous, chez G7, ça fait à peu près 3 ans qu'on n'a pas fait un appel. Ça fait qu'on fait aucun cold call. C'est pas quelque chose que je veux retourner. Je l'ai fait dans le passé pour commencer, mais je pense qu'à un certain point, à un moment donné, quand tu as décidé, c'est ce qu'on parlait en début de rencontre, de pas vouloir travailler avec du volume, mais de travailler avec de la qualité, le cold call en soi d'appeler 200 personnes par jour fait un petit peu moins de sens. Un bon appel découverte rendu là va faire beaucoup plus de sens. Donc, maintenant, on fait pas de cold call. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver puis découvrir puis développer cette clientèle-là à froid? Alors, premièrement, il faut que tu la cibles. Ça paraît spécial ce que je vais dire là. Mais il y a trop souvent du monde qui vont partir sur une grosse stratégie de développement à froid sur une clientèle qu'ils veulent même pas travailler avec. OK? Je l'ai vu, je sais pas combien de fois, cette erreur-là, je l'ai faite je sais pas combien de fois. Donc, on se dit, crime, il nous faut des clients, il faut qu'on développe le maximum de clientèle. Go, on appelle ou on email tout le monde. Finalement, tu prendrais 2 minutes, tu regarderais littéralement toutes les gens que tu viens de leur envoyer un email, puis tu dirais, il y en a peut-être 1/10, 1/20, 1/30 là-dedans que je vais aller travailler. Donc, théoriquement, il y en a 1/10. Vous connaissez un peu les ratios. Les ratios de pourcentage vont peut-être être de 1%. Donc, imagine que tu as 1/10 sur les 5 que tu envoies que tu veux travailler avec. Puis après, il y a 1% de réponse qui va peut-être amener une conversation. Et les chances sont minces en tabarouette que tu parles à ton client idéal. Okay? Donc, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on fait différemment maintenant? Première chose, identifier nos clients potentiels. Et qu'est-ce que je veux dire par identifier nos clients potentiels? Nous autres, on a une technique à l'interne qui fait en sorte qu'on est capable de sortir des clients dans le monde entier, parce que nous autres, on n'est pas juste ici, on est vraiment sur plusieurs endroits géographiques, qui vont investir un certain montant en publicité Facebook. Ça, c'est avec eux qu'on veut travailler. Donc, du moment que ces clients-là sont sortis, puis qu'on les a devant nous, puis qu'on sait que ce business-là investit 50 000 par mois, 100 000 par mois, 20 000 par mois, là, on sait que tous ces gens-là, s'il y a 1% de conversion, on est en business parce que c'est tous des gens avec qui on veut travailler. Donc, quand ces business-là sont sortis, nous autres, ce qu'on va faire, on va aller chercher les informations de toute l'équipe marketing de ces gens-là. Okay? C'est important de pas juste s'adresser au directeur marketing. Ces business-là vont peut-être avoir un coordonnateur marketing, quelqu'un qui va être en charge du social, bon, etc. Donc, ils ont plusieurs personnes en place. Et là, à partir de là, comment qu'on va prendre? On va faire une approche personnalisée. Donc, les gens au développement des affaires chez nous vont faire une vidéo personnalisée devant leur écran. On va leur envoyer, puis on va pas juste leur dire « Hey, salut, on fait de la pub Facebook, travaille avec nous. » On va dire « Non, je suis allé voir tes campagnes, puis je trouvais qu'ils étaient bonnes, parce qu'on a la chance maintenant de voir c'est quoi les campagnes publicitaires qu'un client fait. J'ai trouvé bonnes, mais voici 3 choses que je pense qui auraient pu être bonnes pour toi. Si tu voudrais en savoir plus, réponds-nous. » Et cette approche-là, si tu la fais de manière constante, on and on, maintenant, ça va fonctionner. Nous autres, ça prend beaucoup de temps arriver à ça, mais maintenant, quand tu as la conversation avec, je le réitère, une clientèle que tu as ciblée et que tu aimerais travailler avec, tu sais que c'est juste des conversations de qualité. Donc, tu es prêt à mettre cet effort-là pendant 6, 8, 9, 10, 12 mois de temps parce que tu sais que si maintenant tu as 20 conversations, mais c'est 20 conversations avec des clients qui, selon les mathématiques préalables que tu as faites, risquent de te payer 5, 10, 15 000 $ par mois éventuellement. Donc, première chose, savoir à qui tu veux t'adresser. Deuxième chose, sortir toutes les personnes dans cette même organisation-là qui pourraient être de près ou de loin en charge des activités marketing. Troisième chose, avoir une approche personnalisée. Et quatrième chose, arrête jamais. Arrête jamais. Il y a des nouveautés avec Facebook chaque mois. À chaque mois, tu peux y envoyer un contenu intéressant pour lui montrer comment il peut améliorer sa business. Puis maintenant, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une conversation. Puis là, après, la conversation en bas. Puis là, c'est là que tu peux essayer de peut-être de vendre ta salade.
Mais c'est quand même juste 15% en ce moment.
C'est quand même juste 15%, effectivement. Nous,
c'est quand même là des fois de dire, OK, ben yo, mon ROI sur mon temps investi, quand tu dis que 70% c'est du partenariat, c'est là que tu fais comme, OK, ben il est là le levier, là, tu sais.
Ben oui, il est là le levier. Puis là, c'est pour ça que nous, on a bâti une offre spécifique pour les partenaires. Puis c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est de se dire comment que tout le monde peut gagner, comment qu'on peut grossir la tarte autour de ça. Donc oui, on a compris qu'il était là, nous autres, qu'on pouvait faire x12, x100, x200, tu sais. Mais ça reste que tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, il faut quand même que tu sois capable d'avoir d'autres axes de développement d'affaires que tu peux avoir à ton arc.
Dites-moi si ça fait du sens, Gaël, mais tu sais, d'avoir comme un processus de comment tu passes d'un client intéressé à signer un contrat, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qui se passe entre, est-ce que ça ferait du sens pour vous? Fait qu'est-ce que tu peux me parler un petit peu le processus à travers le temps que tu as trouvé optimal pour, OK, ben parfait, j'ai un lead, comment je fais pour le transformer en client?
C'est une excellente question. Encore une fois, ça, c'est des processus qu'on a testés, qu'on a vu que les pros nous ont dit de faire. Donc, tu sais, du moment que souvent quelqu'un dit quelque chose de faire, au début, tu y crois pas trop. Tu dis, mais voyons donc, il y a pas mal tout le temps raison, OK? Donc, si c'est un bon pro que vous avez pris, là. Donc, oui, le processus, c'est simple. Nous, on part dès le départ avec une approche qui est très, on le sait pas si on peut t'aider. Puis la seule manière qu'on peut savoir si on va t'aider, c'est qu'on va faire une analyse rapide de comment tes campagnes vont. OK? Donc, on va aller faire ça, une analyse gratuite. On va aller voir son gestionnaire, puis on va essayer de trouver les bobos. On va essayer de trouver les bobos, puis on va dire, voici pourquoi on pense que ça marche pas, voici pourquoi on pense que ça marche pas, etc., etc. On va faire un document, puis on va lui présenter le document, puis on va s'assurer qu'il comprenne. Je l'avais dit tantôt, il faut que les gens comprennent. Si les gens comprennent pas, ils vous donneront pas l'argent. Okay? Donc, on va présenter ce document-là, puis on va lui dire, voici les bobos qu'on pense que vous avez. À partir de là, quand le client comprend vraiment qu'il y a des bobos, mais comme quand tu vas à l'infirmerie, puis la personne, elle vient de te trouver, pas à l'infirmerie, mais mettons au docteur, puis le docteur, il arrive, puis il trouve qu'il y a des bobos, il trouve que tu as des problèmes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une prescription. Même chose qu'on fait. Fait que voici les bobos. Voici la prescription. Et là, à partir de là, la prescription en soi, c'est un plan stratégique qu'on va vendre à notre client, qui a un certain prix. Ce plan stratégique-là est un roadmap de tout ce qu'on pense qui doit être fait dans la prochaine année avec le client pour la publicité Facebook. Puis là, le client, il travaille pas encore avec nous. Il a juste décidé de payer ce roadmap-là. Puis ce qui devient excessivement intéressant dans la création de ce roadmap-là, ben de un, tu ralentis un peu. Tu ralentis un peu les ardeurs du client qui souvent veut aller très, très vite. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un veut aller très, très vite puis qu'il n'y a pas de stratégie, les chances que tu aies des résultats avec lui sur le moyen terme sont pas très élevées parce que tu n'as pas une bonne stratégie. Donc, tu ralentis un peu les ardeurs du client, de un. Tu fais une excellente stratégie, de deux. Puis, de trois, ce qui est excessivement intéressant, c'est que pendant la création de cet audit-là, tu vas découvrir deux choses. De un, tu vas sûrement découvrir que tu veux ou tu veux pas travailler avec ce client-là. Ça, c'est important de le savoir. T'sais. Parce que déjà là, tu vas avoir des premiers échanges avec lui, tu vas voir si c'est un bon fit ou pas un bon fit. Puis de deux, quand tu vas lui présenter ce plan stratégique-là, qu'est-ce que le client va voir? Il va voir de la crédibilité. Il va voir de l'intelligence. Il va comprendre que tu sais de quoi tu parles. Puis ça, c'est important. Ça, c'est important. Personne ne veut donner de l'argent à des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Puis très souvent, on va arriver et on va dire, go, je prends le contrat. Puis on n'a même pas fait une analyse encore de ce que t'as. On sait même pas si on peut vraiment t'aider. Tu sais, on va reprendre, mettons, l'exemple du docteur. Personne ne va au docteur. Puis le docteur arrive, puis il t'examine pas, puis il te donne une prescription. Ça ferait aucun mot du bon sens. Tu sais. Donc, c'est un peu la même chose ici. Tu regardes si tu peux l'aider, tu lui montres un plan. Puis par la suite, quand ce plan-là est présenté, tu peux arriver subséquemment avec une offre de service. Donc, voici le plan qu'on pense pour toi pour les 90 prochaines années, 90 jours, prochaine année, peu importe. Est-ce que tu as envie qu'on parte sur une ride ensemble? Ou si tu veux pas, voici le plan puis tu peux le faire tout seul. Donc, ça, c'est le processus qu'on va prendre en place. Puis du moment que l'audit a été présenté, l'offre de service a été présentée, le client accepte ou n'accepte pas. Des fois, ils vont décider de vouloir le faire apparemment puis il n'y a pas de problème avec ça. Et là, à partir de là, il y a une relation d'affaires qui va commencer avec un volet court terme. Donc, jamais commencer, je vous invite à ne jamais commencer avec une relation long terme dès le départ. Parce que premièrement, vous ne savez pas si ça va être bon pour vous. Vous ne savez pas si ça va être bon pour le client. Donc, c'est mieux d'avoir des victoires faciles au départ, de s'assurer qu'on a des petites victoires à droite à gauche, avant de s'aligner sur un plan qui est très, très long terme. Donc, grosso modo, si je réitère, une analyse, une prescription, un offre de service court terme. Quand cette offre de service court terme-là a été bonne pour tout le monde, ça va vous donner de la chance pour aller sur du plus long terme.
Court terme, ça ressemble à quoi de ton côté? C'est un 3 mois, c'est un mois, c'est
une campagne? Sur 90 jours au départ, mais il y a plein de manières de vous y prendre. Vous pouvez y prendre juste avec une campagne que vous testez, qui est très rapide à mettre en place, puis vous savez qu'il va vous donner un résultat rapide. Nous, il va sur un 3 mois, pour être certain du sérieux du client également. T'sais, on pense que si le client est pas prêt à aller sur 3 mois, pour nous, ça fait plus ou moins de sens. Donc, on commence avec ça.
Et la roadmap, tu as dit, tu l'as fait payer, en fait. Hein?
Le plan, oui, exact, je le fais payer. Ça, c'est important de voir si le client est prêt à payer pour sa prescription. Là. T'sais, c'est aussi simple que ça. Puis aussi, encore, je vous l'ai dit tantôt, quelqu'un qui vous paye déjà une fois, il y a beaucoup plus de chances de vous payer dans le futur. T'sais, c'est stratégique également. Il ne faut pas se voiler la face avec ça. Donc, de faire ça comme ça, ça donne 1 million de possibilités que si vous ne le faisiez pas, ça ne vous amènerait pas ces possibilités-là.
Et moi, qu'est-ce que j'avais fait récemment, en début d'année? Quand on parle du roadmap, bon, c'est un document qui est combien de pages que ça peut faire, le document?
C'est 40-50 pages, oui.
40-50 pages, fait que tu sais, c'est assez lourd. Puis moi, je suis vraiment pas dans ce genre-là. Fait que moi, c'était un one-pager que je faisais. mais que c'était comme plus un webinaire, une présentation. Et tu sais, j'y allais encore une fois sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire. J'ai pas des grosses échelles à gérer, mais j'avais justement mon espèce d'analyse de son gestionnaire. Qu'est-ce que j'avais vu, bon, qui clochait exactement, bon, l'analyse préliminaire. Et après ça, ben voici qu'est-ce que je te recommande. Puis voici un petit peu la stratégie que je mettrais en place pour les 3 prochains mois. Moi, c'est vraiment comme ça que je le présentais. Fait que bon. Je présentais une stratégie de 3 mois qui était exactement si la personne disait oui, ben c'était mon travail à court terme. Puis moi-même, je disais, ben regarde, je veux pas aller plus loin. On va juste commencer avec une première victoire. C'est une stratégie. Maintenant, tu as 2 choix. La stratégie, tu peux la faire tout seul ou tu peux la faire avec moi. À partir de ce moment-là, ben la personne disait, ben super, ben moi, ça fait du sens. C'est logique. C'est là que je veux me rendre. J'avais bien écouté ses besoins. La présentation était nickel. La personne était comme, bon, ben parfait, oui, je te donne le mandat. On regarde après 3 mois comment qu'on revoit notre entente. Puis moi, qu'est-ce que j'ai toujours aimé, c'est ce 3 mois-là est quand même cher. Puis après ça, pour qualifier la personne, puis après 3 mois, étant donné que là, tu t'en vas plus sur le long terme, tu vas être en mesure de baisser tes prix. Le gros travail va avoir été fait. Et tu vas baisser tes prix, mais tu vas augmenter ta profitabilité parce que une grosse partie du travail va déjà avoir été faite. Tout ce qui est la mise en place, le tagging, comprendre un petit peu le brand. Fait que c'est comme vraiment un gros, gros, gros travail. Fait que ça coûte assez cher le 3 mois. Mais après ça, pour une entente plus long terme, OK, ben mettons, ça va être à 2 000 $ par mois, puis ça a coûté 8 000 $ sur 3 mois. Comme, oh my God, OK, ben for sure, tu sais, ça fait du sens de continuer. C'est, je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était comme une façon que j'avais vu de transition qui c'était automatique. T'sais. Si j'avais aimé l'expérience, j'ai proposé quelque chose de moins cher, mais je savais que j'avais quasiment plus rien à faire.
Ça peut être une bonne manière également, tant aussi longtemps que tu commences pas, tu sens que le client voit la stratégie. Puis cette stratégie-là mérite d'être payée. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous commencez sans stratégie, la personne dit, ouais, où est-ce que tu t'en vas avec tes skis, là? Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis, tu sais? Nous, on est payé. Je pense que tout le monde ici fait de la pub Facebook, de ce que je comprends bien. Vous êtes payé. On est payé à prendre des décisions. C'est ça. Grosso modo, si on résume ça très simplement, on est payé à prendre des décisions. Donc, si la personne ne sait même pas c'est quoi votre intelligence par rapport à son compte, par rapport à ce qu'il fait, comment qu'elle peut vous donner les clés de prendre les décisions par rapport à sa business? C'est pour ça que c'est excessivement important de prendre, de ralentir les ardeurs du client au départ, présenter une stratégie et de faire payer cette stratégie-là parce que là, elle a de la valeur.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions peut-être en lien avec un défi que vous êtes en train de vivre? Oui, Kim?
Moi, c'est que tu parles beaucoup de l'expertise, puis vraiment comme te concentrer sur dont la publicité Facebook dans mon cas. Mais on sait que les résultats, il y a tellement de variables, genre la page de vente, les textes, qu'on n'a pas de contrôle dessus dans la plupart des cas. Comment est-ce que vous autres vous faites pour gérer ça? Est-ce que vous travaillez tout sur la page de vente aussi ou vous donnez des conseils pour que votre publicité ait plus de succès ou la séquence de courriel qui vient après, est-ce que vous avez un mot à dire là-dedans ou vous êtes juste concentré sur la publicité Facebook?
C'est une excellente question, encore une fois, là, parce que c'est une question que nous-mêmes, on s'est posé un bon bout de temps. On s'est rendu compte d'une chose, c'est des choses qui évoluent beaucoup à travers le temps. Selon les types de clients que tu vas travailler. Donc, selon les types de clients que tu vas travailler, souvent, avec un plus petit client, tu n'auras pas le choix de tout t'occuper du funnel de vente parce que tu le sais que si ta page d'atterrissage n'est pas bonne, tu vas avoir la meilleure pub du monde. Il n'y en aura pas de conversion, il n'y en aura pas d'achat. Donc, tu l'as un peu sur le nez, tu sais. Puis, nous, on était là. On était là au départ. Puis, on venait d'un background de gens qui faisaient, comme je disais tantôt, beaucoup de gestion de communauté. Donc, on avait beaucoup de créatifs à l'interne. Donc, on a décidé de prendre la décision de s'occuper de toutes les pages de vente, de s'occuper des lead magnets, de s'occuper des séquences courrières, en gros, de s'occuper du funnel en soi. OK? Maintenant, je recommencerai peut-être aujourd'hui from scratch, puis que je voudrais juste travailler avec des clients qui investissent peut-être, je sais pas, 50, 100 000 $ par mois. Il y aurait des bonnes chances que peut-être que certains assets qu'on a en ce moment, je me dirais pas que j'en ai besoin en priorité parce que les besoins de quelqu'un qui investit autant d'argent sont totalement différents des besoins de quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Comme on l'a dit tantôt, un plus petit client a besoin de tout. Un plus gros client, tu vas lui donner ça pour ce prix-là, puis il va avoir ça de valeur. Mm-hmm. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, je pense que la bonne question à te poser, Kim, ici, c'est mettons que tes clients sont petits, mettons que c'est ça, puis qu'ils ont besoin de toutes les pages de vente, tu n'auras pas le choix de trouver une manière que si c'est pas toi qui les fasses, que quelqu'un d'autre qui les fasse, parce que tu vas tout le temps être mis responsable des résultats. Le résultat est tout le temps mis sur le trafic. Peu importe comment on l'explique aux clients, c'est tout le temps le trafic qu'on va accuser. Très souvent. Peut-être pas tout le temps, mais très souvent, moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai vu. OK? Donc, si tu travailles avec des petits clients, tu n'auras pas le choix de trouver une manière de les améliorer, ces pages de vente-là. Trouver un partenaire qui peut les faire, ces pages-là. Peu importe. Mais il faut que tu sois en charge d'une certaine manière de ça, parce que sinon, tu le seras autant que moi que tes publicités vont pas fonctionner. Et d'un autre côté, si tu travailles avec des gros, gros clients, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, tu as juste besoin de bien connaître ton gestionnaire de pub Facebook, puis eux sont excessivement contents avec ça.
Phil?
Petite question par rapport, on a parlé beaucoup de prix au début. Tu sais, sans rentrer dans tous les détails, comment tu fais pour défendre ça? T'sais, comment tu fais pour défendre le prix que tu veux charger au client? Tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs, là, un client qui me disait, ben ouais, on donne, tu coûtes plus cher qu'un avocat, tu fais ci, tu sais. Il y en a comme, on dirait que j'ai tout vu, puis honnêtement, je trouve ça difficile. C'est quoi, mettons, ton argument principal pour comme boucher le client à ce niveau-là, là, tu sais?
100%, c'est une excellente question. Beaucoup de gens vont faire de la tarification horaire. Nous, on touche pas à ça. OK? Nous, on touche pas à ça. On n'est pas intéressé à ça. Ce qu'on est intéressé, c'est les résultats de nos clients. OK? Donc, moi, je dis tout le temps un truc à mon équipe. La rétention de votre clientèle puis la qualité de la relation que vous allez avoir part de l'acquisition. OK? Part de l'acquisition. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que si, théoriquement, tu rentres avec un lead puis tu lui fais un plan stratégique, tu lui montres toute ton expertise, puis qu'après toute cette expertise-là, il trouve encore que tes prix sont chers, mais t'as mal fait ta job, là. T'as mal fait ta job, ça veut dire qu'il n'a pas compris, il n'a pas vu assez de valeur dans ta stratégie. Puis c'est la même chose, on va reprendre l'exemple du docteur. Si t'arrives au docteur, puis il arrive, puis t'as un petit problème, puis c'est ta santé, puis il dit, ben ça va coûter tant. Bon, là, on a un système d'assurance différent au Canada, mais peu importe. Je veux dire, tu vas dire oui, parce que c'est lui qui a l'expertise, puis c'est lui qui te le dit. Mais si la personne, elle te voit pas comme un expert dans ce que tu fais, elle va toujours penser que tes prix sont chers parce qu'elle ne va pas voir la valeur ajoutée que tu y amènes. Point un. Puis point deux, quand je te dis que la rétention part de l'acquisition, surtout avec des clients que tu es sûr et certain d'avoir des résultats. Parce que si tu es sûr et certain d'avoir des résultats avec ces clients-là, tes prix ne seront jamais chers. Parce qu'à chaque fois que le client, théoriquement, va mettre une pièce, il va en faire deux. Puis automatiquement, que ce client-là est capable d'avoir cette machine-là dans sa tête, que toi, tu es juste une machine à un peu lui imprimer de l'argent là, sans faire de mauvaises images, à partir de là, tes prix ne sont jamais chers. C'est pas facile, mais c'est là, nous, qu'on est, c'est là qu'on va. C'est juste d'être avec des gens qui, un, comprennent notre expertise, puis de deux, on est sûr et certain de leur amener des résultats. Puis à partir de là, il y a peu de discussion au niveau du pricing.
Mettons, par les approches à froid, j'imagine, bon, par les partenaires, c'est plus facile, mais par les approches à froid, est-ce que dès le départ, bon, la personne t'envoie des recommandations, un appel, la question c'est, bon, comment ça va coûter votre affaire? Là? Avant d'aller plus loin, je veux juste savoir comment ça coûte. Est-ce que vous le dites? Est-ce que c'est la personne va le savoir? Vous allez juste parler du prix de l'audit? Comment tu t'en sors à ce moment-là?
Ben nous, on dit tout le temps qu'on va commencer avec un audit, puis on dit le prix de l'audit. Et si après la personne va nous poser des questions sur notre tarification, ben on cachera pas, parce que théoriquement, on veut que le client sache à quoi s'attendre. On veut que le client sache à quoi s'attendre. Puis si automatiquement, la première chose qu'il dit, c'est « Voyons donc, c'est bien trop cher, jamais je ferais ça », il n'y en a pas de problème, va voir d'autres personnes, on n'a pas envie de travailler avec toi. Parce que tu es capable déjà, puis je le disais tantôt, la rétention part de l'acquisition, tu es capable déjà de le voir au départ que si un client, même avant que tu lui aies dit que je vais analyser ta situation, dit que ça va être cher, mais c'est cher par rapport à quoi, là? On les a même pas vus, tes affaires, on n'a même pas fait d'analyse, puis tu vas dire que c'est cher. Pourquoi? Parce que tu penses qu'on va avoir besoin de faire ce travail-là, mais on ne sait même pas le travail qu'on fait, on n'a pas fait d'analyse. Donc, si ce client-là n'est pas dans ce mindset-là de dire OK, on va faire une analyse, puis après, on va voir combien que ça coûte. Ben là, à partir de là, vous le savez que c'est un mauvais client. Puis il faut, je vous le dis, moi, je me l'ai tout le temps fait dire, puis je croyais pas trop à ça, mais il faut dire non. Il faut dire non. Il faut pas accepter de trahir tout le monde. C'est à l'échelle court terme, mais moi, j'ai fait les chiffres, j'ai fait les calculs. Tous les gens qui s'en vont chercher, puis finalement, tu avais comme un petit doute, ça se retrouve tout le temps comme des mauvais clients qui, un, il va partir, non. Il reste pas longtemps. Deux, il va chialer. Puis trois, il y a des chances peut-être qu'il va parler en mal de vous, là. Puis ça, c'est pas le fun. Tu sais, je veux dire, ça va affecter peut-être une acquisition de clients que vous auriez eu autrement. Puis ça, c'est excessivement dur, surtout quand on commence. On veut de l'argent, on veut des revenus, on veut générer de la business. Mais Colin, moi, avoir su ça avant, j'aurais dit non à pas mal plus de gens.
J'espère que vous avez aimé les quelques techniques que j'ai pu partager avec l'audience aujourd'hui. Également, je tiens à mentionner que je pense davantage intégrer certains apprentissages personnels à l'intérieur du podcast. Donc, c'est le moment idéal pour me dire, à l'aide de commentaires sur iTunes, si vous avez aimé ce format. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à notre podcast si l'épisode d'aujourd'hui ainsi que les 15 précédents vous ont plu. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.